Le rayon BD, Catherine Meurice et le vertige de la couleur.
Mesdames, messieurs, je voudrais vous parler d'un des grands maîtres aujourd'hui de l'imagination. Du plus grand maître, peut-être, de l'imagination. Je veux dire Eugène Delacroix.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Rayon BD, l'émission de bande dessinée de France Culture pour une rencontre aujourd'hui avec l'une des grandes autrices de bande dessinée française. Et elle a sorti chez Dargo il y a quelques semaines un nouveau livre magnifique, simplement intitulé Delacroix, dont nous allons parler avec elle aujourd'hui. Sur la couverture de ce livre, on voit d'abord ce titre, Delacroix, tracé en grandes lettres blanches. Et puis on voit des couleurs, du blanc, du rouge, plutôt des rouges, parfois fuchsia, parfois bordeaux, un peu de beige, un peu de brun, et un fond sombre qui oscille entre le gris, le noir, le vert. Ce sont ces couleurs à l'aquarelle, mêlées, mélangées, contrastées, que l'on voit en premier, et le motif central quand même que l'on distingue assez nettement, un cheval blanc. Et quand on s'approche et qu'on regarde un peu mieux, on voit la tête d'un autre cheval, brun, et l'on distingue deux hommes armés de poignards, montés sur ces chevaux, et qui sont en train de se battre férocement au corps à corps. Et puis en haut de la couverture, au-dessus du titre, de la croix, les noms des deux auteurs. J'aurais aimé dans une autre vie rencontrer le premier, Alexandre Dumas. Je suis ravi de recevoir l'autre, Catherine Meurice. Bonjour Catherine Meurice.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut commencer par cette couverture? Qu'est-ce que c'est que cette image? Qui sont ces deux hommes qui se battent férocement?
Alors c'est un tableau qui s'appelle le Giaour, c'est le combat du Giaour et du Pacha, donc c'est des histoires anciennes hein, qui avaient inspiré Delacroix. C'est un tableau dont parle Alexandre Dumas, parce qu'il s'agit donc d'un texte de Dumas que j'illustre, un mélange d'illustrations de bande dessinée, je pense qu'on va y revenir, mais c'est un tableau qui a appartenu à Dumas, et quand j'avais lu ce texte de Dumas, je voyais pas jamais de quoi il s'agissait. Enfin, j'ai découvert ce texte il y a longtemps, il y a 15 ans, et ce tableau était mystérieux, ce Giaour. Déjà, je comprenais pas bien ce mot, Giaour, qu'est-ce que c'était, bon. Et en reprenant 15 ans après le texte de Dumas, en y mettant de la couleur, en faisant un nouveau livre tel qu'il est aujourd'hui, j'ai repris ce tableau à bras-le-corps, mais j'en ai fait une version personnelle, qui bien sûr s'appuie sur l'original, mais je n'avais pas vu la toile originale de Delacroix. Je l'ai vu après avoir fait ce dessin, qui est le dessin de couverture. Et j'ai fait un petit peu exprès parce que je voulais pas être trop influencée par les couleurs de Delacroix, le tableau que j'ai fini par voir au hasard d'une exposition au Musée de la Vie Romantique à Paris. Ce tableau, il est pas si grand, il est vraiment dans les bruns, dans les ocres, une palette assez, on pourrait dire, romantique. Et moi, je m'étais plutôt inspirée de petites choses que j'avais vues dans des catalogues ou même sur Internet. Et puis, je plisse un petit peu les yeux, je rends tout ça un petit peu opaque et j'en fais ma version personnelle. Et c'est-à-dire que voilà, dans mon dessin, en fin de compte, on trouve d'une sorte de magenta, de rose, rouge magenta, un vert. Et peut-être que j'ai eu en tête plutôt les mots de Baudelaire qui parle de Delacroix dans un poème qu'on apprend parfois à l'école qui s'appelle Les Phares, où il parle de Delacroix, ce lac hanté de mauvais anges ombragés d'un bois de sapin toujours vert. J'ai peut-être eu en tête ce bois de sapin, j'aime beaucoup les arbres par ailleurs.
Oui, ça on l'a vu dans les grands espaces, oui. Entre autres. Voilà. On va parler bien sûr de Delacroix et on va parler de couleurs aujourd'hui avec vous, Catherine Meurice. Mais je voulais commencer par parler un petit peu de Dumas, parce que ce texte, vous l'avez dit, est signé Alexandre Dumas. C'est un auteur que vous aimez beaucoup.
C'est un auteur que j'ai lu quand j'étais jeune, que j'ai tout de suite aimé. Je ne sais pas si on peut détester Dumas, je crois que ce n'est pas possible. J'ai un souvenir merveilleux d'une lecture du Comte de Monte Cristo quand j'étais ado. Je me revois voilà, à la campagne en train de lire ce bouquin. Je crois que c'était mon premier très gros livre, écrit en tout petit. Ouais. Les choses qui parfois impressionnent quand on est très jeune. Et j'ai dévoré ce livre. Voilà, c'est la première fois que je dévore un livre, que je ne pouvais pas le lâcher, que je tournais les pages de manière haletante. Et j'étais amoureuse d'Edmond Dantès et j'étais émerveillée devant en sentant ce souffle qu'il y a dans tous les romans de Dumas. C'était un plaisir incroyable. Donc Dumas est familier. Delacroix aussi, hein, d'une autre manière. Ils sont là depuis toujours, je crois. Je ne saurais pas trop dater leur arrivée dans ma vie, mais Dumas est là depuis l'enfance, ouais, c'est sûr. Ouais.
Je voudrais lire les premiers mots de cette causerie, puisque c'est donc une causerie de Dumas que vous que vous retravaillez, que vous illustrez de toile de Delacroix, on va un peu dire comment. Je voudrais lire les premiers mots parce que le style de Dumas est vraiment flamboyant, extraordinaire. Voici les premiers mots. Mesdames, messieurs, j'aurai plaisir à vous parler de Delacroix, à faire revivre devant vous cette puissante personnalité, à rendre le mouvement de ce peintre étrange, plein de défauts impossibles à défendre, plein de qualités impossibles à contester, qui sauta par-dessus le talent pour arriver au génie, et pour lequel, amis ou ennemis, admirateurs ou détracteurs, peuvent s'égorger en toute conscience, car tous auront raison, ceux-ci d'aimer, ceux-là de haïr. Delacroix fut toute sa vie en art ce qu'on appelle en politique un fait de guerre et un cas de guerre. Ses croquis furent des escarmouches, ses dessins des combats, ses tableaux des batailles. Nous allons tenter d'esquisser cette grande et curieuse figure qui ne ressembla à rien de ce qui sera. Nous allons essayer de donner, par l'analyse de son tempérament, une idée des productions de ce grand peintre qui tient à la fois de Michel-Ange et de Rubens, moins bon dessinateur que le premier, moins bon compositeur que le second, mais plus fantaisiste que l'un et l'autre. Voilà, j'ai choisi ce passage, c'est le tout début, il y a beaucoup d'autres passages qui m'avaient vraiment frappé, mais celui-là, c'est le début, je l'ai choisi aussi parce que le premier mot, finalement, de Dumas, c'est « j'aurais plaisir à vous parler de Delacroix ». Et le plaisir, dans cette causerie de Dumas, et dans votre travail, c'est quelque chose de central. C'est pas un exposé savant, c'est un exposé intelligent, un exposé très renseigné. Dumas connaît très bien Delacroix, mais c'est d'abord une question de plaisir.
Exactement, c'est une question de plaisir, c'est une question d'amitié aussi. Hein. En entendant ses premiers mots, Dumas prend Delacroix à bras le corps, ou même il l'embrasse, mais dans tous les sens du terme. Quoi. J'ai l'impression, moi, je l'ai dessiné comme ça à la fin de mon livre. Il ouvre les bras, il nous a vraiment, voilà, il ramène tout le monde près de lui et il va nous raconter une histoire en fait. Et il utilise aussi le mot fantaisiste. Voilà, les mots plaisir, le mot fantaisiste. C'est vraiment la fantaisie, on ne l'imagine pas forcément chez Delacroix, mais elle est là, elle est aussi chez Dumas, bien sûr, et moi, c'est ce qui me plaît, je crois que c'est ce qui est dans tout mon travail, c'est ce qui doit être dans mon travail, sinon je m'étiole. Donc, le plaisir a été un guide, et ce texte sur Dumas, comme vous le dites, c'est un texte, d'un fin connaisseur de Delacroix, érudit. Mais ce n'est pas le texte d'un critique d'art, c'est pas le texte d'un historien ou d'un esthète, c'est le texte d'un ami et d'un grand raconteur d'histoire, d'un conteur et qui prend des libertés avec l'histoire. Il fait ça dans ses romans aussi, il nous balade, ouais. Mais c'est ce qu'on aime, c'est efficace, c'est drôle, c'est émouvant, c'est sensible, il nous parle à l'oreille, on a l'impression d'être à côté de lui, on chausse nos petites charentaises et puis on l'écoute parler, je trouve ça fantastique. Ouais.
Ces questions d'amitié entre les artistes, c'est une question qui vous intéresse depuis longtemps, vous avez publié plusieurs livres sur Le Pont des Arts qui racontait un peu certaines de ces amitiés entre des artistes. Vous aviez aussi dans Mes Hommes de Lettres raconté votre goût, votre compagnonnage avec certains auteurs depuis le Moyen-Âge, en passant par la Renaissance, le XVIe, le XVIIe siècle. Mais dans tous ces travaux, on sent, Catherine Meurice, un goût peut-être particulier pour le XIXe. Le XIXe siècle, il y a quelque chose qui vous travaille, qui vous concerne dans ce siècle qui n'est pas le siècle de la fun attitude, comme vous dites dans Le Pont des Arts ou dans Mes Hommes de Lettres. Je ne sais pas, le 19e siècle ne fut pas placé sous le signe de la fun attitude.
C'est vrai, j'ai écrit ça.
Delacroix et Dumas, c'est peut-être pas les moins fun des artistes du 19e. Mais...
Non, c'est pas un siècle fun. Et encore, quand on regarde de près la vie des illustrateurs et des peintres ou des écrivains de l'époque, parce que c'est surtout pour moi un siècle de grands illustrateurs. Bon, ben il y avait, enfin c'était quand même une sacrée compagnie de bras cassés et les types faisaient quand même souvent et les nanas faisaient souvent les 400 coups, mais. Mais voilà, je crois que ce 19e siècle, pour plusieurs raisons, j'y suis très attachée. D'abord parce que quand on est petit, souvent, ce qui me concerne, je crois que les premiers tableaux, les premières images que j'ai vues, les images anciennes, c'était des images du 19e, que ce soit chez une grand-mère, ma grand-mère paternelle, où il y avait des vieux bouquins qui sentaient un peu l'humidité. Bon, dedans, il y avait des illustrations de Gustave Doré, des choses comme ça, très...
De Daumier.
Voilà, de Daumier, des choses un peu mystérieuses, très noires, enfin... vraiment quelque chose de très très loin de nous, et en même temps pas si loin, parce que quand Doré illustre des contes, bah les contes c'est toujours c'est notre vie.
Oui, les illustrations toujours, des contes, voilà, de Perrault par Doré.
Exactement.
Sont familières quand on est enfant.
Exactement. Et le 19e, c'est un siècle d'illustrateurs et de dessinateurs de presse. C'est vraiment là où la caricature prend son, oui, la presse prend son essor. C'est là que on a les feuilletonistes tels que Balzac ou même George Sand, voilà, qui écrivait comme ça. C'est un siècle aussi où ce que j'aime beaucoup, c'est un siècle où les écrivains savaient dessiner, comme Victor Hugo, quand même, c'est assez épatant, et où les peintres savaient écrire, bah, Delacroix. Et son journal, enfin c'est un des artistes qui a le plus écrit, même des ébauches de romans, etc. Je crois qu'il a hésité longtemps sur une carrière d'homme de lettres et de peintre. Et j'aime ça. Et quand on voit parfois des manuscrits d'écrivains du 19e, on voit des caricatures, que ce soit Baudelaire qui dessine Jeanne, voilà, ou même des autoportraits. J'adore ce va-et-vient entre littérature et peinture, et ces va-et-vient sont faits de avec une plume, en fait. Souvent c'est ça, c'est la plume et l'encre de Chine. Il se trouve que c'est mon outil encore aujourd'hui. C'était l'outil de mes copains de Charlie Hebdo. C'est, voilà, pour moi il y a un lien qui se fait. Et vous dis aussi que oui, c'est sûr, je parle beaucoup de littérature et de peinture depuis longtemps dans mes albums, mes hommes de lettres, le pont des arts, et ce qui me plaît, pas dans mes albums, mais ce qui me plaît bien sûr dans ces sujets, c'est que je crois que c'est que tout est lié, en fait. J'ai l'impression que voilà, on a les livres sont les armes, et puis quand on regarde les racines, tout est lié. Tous les artistes regardaient les anciens ou leurs contemporains. Les peintres étaient amis avec des écrivains, et de siècle en siècle, voilà. Tout, j'ai l'impression que tout le monde se tient un petit peu par le bout du doigt, et ça me plaît. Peut-être que ça me rassure aussi. Je crois que voilà, je cherche sans cesse des, peut-être à ne pas, voilà, des racines. Je citais Charlie, c'est sûr qu'après l'attentat contre Charlie, il a fallu retrouver des racines solides, et je me suis de nouveau tournée vers l'art et la littérature, parce que voilà, tout est soclé, comme on dit aujourd'hui. Voilà, donc ça m'aide beaucoup, ouais.
Alors on va parler de peinture, on va parler de Delacroix, mais puisque vous évoquez Charlie et le dessin de presse, je voudrais vous faire écouter une archive que je suis très content d'avoir trouvée, puisque c'est un des plus grands dessinateurs de presse français du XXe siècle, qui est Rézère, qui est mort il y a bientôt 30 ans, 40 ans,
oui,
bientôt 40 ans,
exactement, oui.
Et qui parle de peinture. Je voudrais qu'on l'écoute.
Je crois que la recherche devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que l'on cherche. Et que ce qu'on croyait assez simple au départ se révèle en fait extrêmement compliqué. Par exemple, la couleur, je croyais que la couleur c'était quelque chose de simple, et je me suis aperçu que c'était un domaine gigantesque qui s'ouvrait, et que je suis un tout petit garçon. Je vais voir humblement, je vais voir les peintres, je vais voir les Monet, je vais voir les Cézanne, je vais voir comment faisaient ces gens-là. Alors ce qui est curieux, c'est que je vais les voir dans un but utilitaire. J'ai la prétention de bien connaître Monet ou Cézanne ou Van Gogh, mais pas du tout dans un point de vue culturel. Je m'en fous de la culture. Je veux voir ça parce que ces gens m'intriguent. J'ai jamais été capable de peindre la nuit. On donne une feuille de papier et des couleurs et peindre la nuit. On va prendre automatiquement du noir et on va se mettre à barbouiller du noir et puis du gris, parce que la nuit c'est noir. Bon. Et on va voir un tableau de Van Gogh, la nuit, il n'y a pas une trace de noir. C'est quand même prodigieux. Quand on a découvert ça, on tombe sur le cul. On se dit, mais c'est pas possible. Il a fait ça, il a découvert ça, c'est des géants ces gens-là. Et je vais les voir. Dans un but utilitaire, je crois qu'il faut saisir la couleur telle qu'elle vient maintenant, et savoir les rapports entre un orange à côté d'un vert. Pourquoi l'orange à côté d'un vert ne sera pas le même orange qu'à côté d'un marron ou d'un noir.
France Culture, le rayon BD, Victor Massé de l'Épinay.
C'était donc Jean-Marc Rézère au micro de Jacques Chancel sur France Inter en 1980.
Génial.
Il en dit des choses, hein, Rézère.
Ah oui, je ne connaissais pas du tout cette archive.
On ne sait pas par quoi commencer. Peut-être par l'apprentissage en regardant.
Oui.
Ça, c'est quelque chose que vous, qui est
que
aussi.
Je fais toujours, voilà. Ouais. Vraiment, c'est... Et Rezer le dit, et Delacroix le disait aussi.
Delacroix qui regarde Ingres, qui regarde Gros, qui regarde...
Qui regarde ses contemporains, qui regarde derrière lui, très loin, qui regarde Titien, Véronèse, etc. Et qui dit que le talent continue de s'essayer, en fait. On apprend toujours. Et moi, j'avais pas conscience de faire ça quand j'ai commencé à faire de la BD. Mais en fin de compte, c'est ce que je fais. Je crois que je continue d'apprendre parce que j'aime ça. J'ai toujours peur de ramollir, que mon dessin se ramollisse ou de devenir un peu con, ce qui nous guette tous. Hein. Et en regardant les grands dessinateurs, les grands peintres, on continue d'apprendre. Et non seulement c'est un plaisir, pour reprendre ce terme, et c'est un plaisir et un apprentissage à la fois. Donc c'est formidable. Et ce que dit Rezer aussi, qui est touchant, je me retrouve dans ce qu'il dit, c'est qu'il se sent comme un tout petit garçon. Et ça, c'est mon cas aussi. Quand je vois les peintres, je me sens une petite fille. Toujours un rapport à l'enfance, peut-être plus quand on est dessinateur, parce que c'est une pratique qui vient de l'enfance et qu'on n'a jamais cessé, qu'on n'a jamais stoppé, en fait. On continue de dessiner. Et il y a cette humilité qui est propre au dessinateur de presse, hein, qui était très présente à Charlie, que je savourais vraiment. C'était génial de voir ça chez Cabu. J'ai pas connu Rezer, bien sûr, il est mort quand moi je suis née quasiment. Mais il y avait ça chez Cabu, etc. Un désir d'apprendre, une humilité, toujours regarder les autres sans envie, mais soit avec un œil moqueur, soit avec un œil admiratif. Et ce mélange produit des trucs géniaux comme les dessins de Rezer, les dessins de Cabu, les dessins de Charme, Tinous et tous les autres, quoi, GB.
Et alors Delacroix, il a eu cette formule assez géniale concernant le dessin de presse. L'artiste qui voit un homme tomber d'un toit doit savoir du quatrième étage, doit avoir fini le dessin avant que l'homme ne touche le sol.
Oui, c'est ça.
C'est un peu une. Ça, oui, presque Cabu une maxime pour les dessinateurs
exactement,
de presse.
Exactement, Cabu aurait pu dire ça. Nous, à Charlie, notre maxime, c'était la phrase de Cavana : un bon dessin de presse doit être un coup de poing dans la gueule. Ouais. Bon, voilà, autre temps, autre mœurs, comme on dit aujourd'hui. Mais oui, c'est proche, bien sûr. Oui,
ça va vite aussi, un coup de poing dans la gueule.
Exactement. Moi, je parle de gifle. J'ai déjà entendu Bretéché d'ailleurs parler de gifle. Ça me fait beaucoup rire.
Et alors, dans cette archive de Rezer, il y a quelque chose une notion très importante, c'est là-dessus qu'il termine, c'est la couleur. Alors, Delacroix, c'était un génie de la couleur, on va sans doute en parler, mais ce qui est amusant, ce que j'ai appris, moi, en lisant cette causerie de Dumas que vous illustrez, c'est que c'était aussi un théoricien. Ce que Rezer explique à la fin, les couleurs complémentaires, l'orange qui est à côté du vert n'est pas pareil qu'à côté d'un noir, Delacroix l'a expérimenté. Alors, vous expliquez la scène en cherchant un jaune. Il sort dans la rue, il voit un fiacre jaune la nuit, et il se rend compte que l'ombre est violette, et il dit « Tiens, en mettant du violet, ça fera ressortir mon jaune. »
Exactement, c'est Dumas qui raconte ça, il dit que Delacroix devait aller au Louvre pour étudier. Il voulait un jaune particulier pour faire une peinture, Marino Faiero. Il trouve pas ce jaune, mais il descend les escaliers 4 à 4 pour se rendre au Louvre, et puis sa voiture à cheval l'attend, et puis il s'arrête devant cette voiture qui est jaune, et puis il remonte en courant.
Ça y est, j'ai trouvé.
Il a trouvé, parce que ce jaune qui voisine avec cette ombre violette, c'est le bon jaune. Il est super content de lui, etc. Et il a théorisé, Dumas le dit. Alors Dumas dit qu'il rend compte de cette théorie des couleurs de Delacroix beaucoup moins bien que si Delacroix le faisait. Alors moi, quand je reprends Dumas, c'est encore moins bien que si Dumas. Enfin bon, bref.
Mais, non, mais il y a l'étoile qui illustre, on voit les couleurs.
Voilà,
face
c'est une
à
sorte
face,
de cercle chromatique avec les couleurs primaires, les couleurs complémentaires et ça on l'avait aussi ça chez Goethe qui aussi avait cherchait des cailloux, peignait, écrivait, se lamentait et avait enfin était aussi génial. Et on avait ça chez Chevreul, le scientifique
théoricien
que Delacroix avait peut-être lu d'ailleurs avant de faire sa théorie des couleurs. Oui, et Delacroix raconte aussi ça dans un autre texte. J'avais lu ça, je pense, dans une. C'était peut-être une correspondance entre Delacroix et Georges Sand. En tout cas, j'en avais parlé dans le Pont des Arts. Je mettais en scène Sand et Delacroix, qui était parce que c'était son copain. Delacroix, c'était devenu aussi le professeur de peinture de son fils Maurice Sand. Et donc, je les mets en scène dans le Pont des Arts. Voilà, où Delacroix parle du reflet, comment étudier les reflets et une fois de plus ses couleurs. Et c'est hyper intéressant.
Il est beaucoup plus hystérique d'ailleurs dans le Pont des Arts que dans le Delacroix que vous faites.
Oui. Non, j'ai un goût certain pour les vaudevilles, les portes qui claquent, ouais. les cartoons, les choses qui, le burlesque. Et c'est vrai que dans le Pont des Arts, c'est très très burlesque. Il y a des choses qui s'effondrent, des lits qui claquent. Ou inversement. Et ça me fait beaucoup rire, ça. Oui.
Alors la première double page de votre livre, avant même la reprise du titre, c'est Dumas qui commence sa causerie devant une quinzaine de bourgeois parisiens tout à fait sortis d'un vaudeville avec des hautes formes et des queues de pie. Il est devant, dans une grande salle de tableaux sur laquelle on voit les figures, les dessins de ces tableaux. On peut les reconnaître peut-être si on a l'œil exercé. Et le livre se clôt sur cette même salle, Dumas qui quitte la salle en accompagnant ses auditeurs. Et sur les tableaux, il ne reste plus aucune figure, plus aucun motif, plus aucun dessin. Il ne reste que des couleurs vives, franches et abstraites d'ailleurs.
Exactement. Oui.
Ces couleurs, c'est ça qui vous a plu chez Delacroix? Est-ce que quand vous regardez un tableau de Delacroix, vous voyez d'abord la couleur et vous ne voyez que la couleur, presque en faisant abstraction des formes, abstraction des...
Non, pas vraiment. Je crois que je vois surtout le dessin, peut-être parce que je suis fondamentalement dessinatrice, je ne sais pas. Mais il faut dire aussi qu'on parle beaucoup, évidemment, de Delacroix coloriste. C'est comme ça qu'il était vu à l'époque. On l'avait opposé à Ingres, qui était plus dessinateur, parce qu'il y avait, on voyait plus le dessin dans la peinture de Ingres. Mais à l'époque aussi, on montrait pas les esquisses et les dessins des peintres. Donc les dessins de Delacroix, époustouflants, étaient découverts
carnets,
après sa mort.
Voilà. D'Orient,
Tout ça a été découvert lors d'une vente après sa mort, donc en 1860, après 63. Et moi, c'est ce que j'aime, je crois, chez Delacroix. Bien sûr, j'apprécie sa couleur et c'est ce que j'ai étudié, regardé pour faire ce livre. Et je voulais mettre de la couleur dans ce livre qui accompagne le texte de Dumas. Mais le dessin, les dessins faits par Delacroix dans les marges, ses pastels, ses esquisses, les esquisses de ses peintures, tous les travaux préparatoires de ses peintures, ça me fascine parce que c'est des tableaux, ça pourrait être de l'impressionnisme. Et d'ailleurs, Courbet, puis plus tard Cézanne, etc., ont bien sûr regardé Delacroix. Et je crois que c'est surtout son dessin qui m'épate et que j'admire, ouais.
Mais alors c'est curieux parce que dans ce livre, vous interprétez ou vous réinterprétez beaucoup énormément d'ailleurs de toiles de Delacroix, certaines parmi les évidemment les plus connues, mais certaines aussi qui le sont moins, en tout cas que je ne connaissais pas, que je suis allé voir sur internet avant d'aller au musée. C'est très intéressant. Mais alors ces toiles, est-ce que d'abord interpréter, c'est le bon mot, vous interprétez Delacroix quand vous faites ça, c'est pas du tout de la copie?
Non, c'est pas de la copie. À vrai dire, je me suis pas posé la question. Je connaissais bien le texte de Dumas, donc je l'ai presque regardé de loin. J'avais le texte de Dumas en tête et je me suis intéressée aux peintures de Delacroix sans trop rentrer dans les détails. En fin de compte, je crois que j'ai besoin d'avoir ce recul, c'est-à-dire que je connais la plupart de ses toiles. Certaines, je suis allée les redécouvrir, d'autres, je suis allée les voir parce qu'il y a des peintures qui sont pas faciles à trouver quand Dumas parle de tel tableau ou telle esquisse que Delacroix a faite. Sur un mur, évidemment, le mur a été détruit. On retrouve des copies, je sais pas où. C'est très difficile. Je suis allée chercher sur internet, j'ai eu du mal à trouver des choses. Mais j'ai besoin de regarder ça de loin pour pouvoir donner ma version qui ne soit pas justement une copie, qui soit pas trop proche, qui soit pas. J'ai besoin d'avoir les coups des franges tout en restant fidèle, en fait, au maître, au grand maître.
Ouais. Mais alors, il y a beaucoup de tableaux que j'aimerais évoquer avec vous, mais quelques-uns parmi ceux qui m'ont frappé, il y a ce portrait d'Aspasie la Mauresque que vous interprétez. Donc dans le tableau de Delacroix, là encore, on est dans des tons ocre, blanc, beige, vert. Et vous, le tableau que vous nous proposez éclate de couleurs beaucoup plus franches, avec du rouge, le collier bleu, les lèvres rouges, le collier bleu. On dirait presque, si on m'avait montré ça, j'aurais dit ça c'est une copie d'un Gauguin plutôt, enfin plutôt dans cette inspiration-là. Pourquoi est-ce que ces couleurs arrivent quand vous vous emparez de ce tableau?
C'est vraiment au gré de mes envies, je sais pas, j'avais en tête une phrase de Delacroix qui parle d'une fête pour l'œil. Je voulais que ce bouquin soit une fête pour l'œil. Et c'est vrai que à être trop près des textes du 19e, c'est vrai que on en parlait tout à l'heure, je parle beaucoup du 19e, des dessinateurs, des peintres, des écrivains du 19e et puis soudain, j'avais envie d'ouvrir une grande fenêtre sur d'autres peintres qui sont plus récent, plus proche de nous, et qui m'inspire beaucoup et dont je ne parle pas dans mes livres, parce que on n'a pas, je suis pas obligée de tout raconter, de tout dire, mais c'est vrai que Cézanne, Gauguin, mais même Saïtombly, Roscoe, les peintres, voilà, l'abstraction, tout ça me nourrit, me plaît, et c'est comme je prends ma respiration quand j'en parle, parce que j'ai l'impression que ça ouvre des fenêtres immenses, donc j'ai besoin de ce matériau du 19e qui fait partie de moi depuis longtemps, qui est rattaché à Charlie Hebdo, qui fait aussi partie de moi, etc. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi des couleurs plus franches, et comme un paysage de un océan ou un horizon immense qui est là et dont j'ai besoin. Donc tout ça est mélangé, j'invite cette abstraction sans gêne, sans honte dans mes livres, parce que je sais pas, ça vient comme ça sous le pinceau, j'en ai besoin et je préfère ne pas calculer. C'est vrai que vous parlez de ce dessin final où on a de nouveau cette scène du Louvre très d'invémiste, hein, la plume, etc., très noir et blanc, très fouillé. Puis j'ai viré tous les tableaux noir et, enfin, que j'ai reproduits en noir et blanc. J'ai mis vraiment des pages de couleur, des morceaux de couleur, vous en parliez. J'ai pensé à Saïtombly, à Roscoe. Je voulais vraiment quelque chose. Ces couleurs ont été faites d'un seul geste. Et ce geste me met un petit peu plus d'air dans les poumons, je crois. Voilà, donc c'était une façon de mélanger mes influences, voilà, ce que je fais depuis longtemps, et puis me tourner un petit peu vers l'avenir.
Alors en vous écoutant, je pense aussi à ce tableau qui figure plutôt vers la fin de ce livre, la lutte de Jacob avec l'ange, qui est vraiment là tout à fait surprenant. Vous évoquiez Roscoe, c'est presque ça. On reconnaît bien les deux protagonistes, Jacob et l'ange, qui se battent et qui dansent un petit peu. Mais dans le tableau de Delacroix, là, il y a tout un fond, il y a un grand arbre ou deux grands arbres. Là, vous gommez tout. On a les deux personnages qui sont d'ailleurs très dans un style qui rappelle Brett Eschet, avec les yeux d'Agrippine presque. Et puis vous avez tout balayé au fond avec un ciel fait au gros pinceau, orangé, jaune, rose. Là, c'est l'abstraction qui rencontre le dessin de presse, qui rencontre Delacroix.
Eh bien, si vous le dites, oui, mais voilà, c'était une pulsion. Non, une fois de plus, c'est pas calculé. C'est vrai que je voulais pas reproduire la lutte avec l'ange, vraiment, avec tous les détails. Je crois que j'avais besoin d'air. Donc, il fallait dégager un peu, pousser les meubles et puis reproduire ces deux personnages. Évidemment, un petit côté caricature. Voilà, je mets pas de la caricature dans toutes mes versions des tableaux de la Croix. J'alterne. Mais là, oui, je voulais faire deux bonshommes un peu à la Brett Eschet qui se bastonnent. Parce que bon, il faut pas que je perde de vue que je suis une dessinatrice d'humour. Faut pas que je lâche ça quand même. Sinon, on va s'ennuyer. Moi, la première.
Bon, donc c'est au niveau de l'œil et c'est au niveau de la main, il y a ce besoin de liberté.
Oui, vraiment, je crois que c'est...
D'air.
Exactement, et en cela, c'est un livre qui s'inscrit bien dans la suite de La légèreté des grands espaces. La légèreté des grands espaces, ce sont deux titres qui annonçaient peut-être ce livre de la Croix où je prends ma respiration.
Absolument.
Et propose des choses.
Il y a une cohérence quand on lit votre œuvre au fur et à mesure. Merci beaucoup Catherine Meurice.
Merci à vous.
Nous mettrons tous les renseignements nécessaires sur la page du Rayon BD sur franceculture.fr, une page sur laquelle nos auditeurs pourront également retrouver les références de votre magnifique De la Croix qui est donc paru chez Dargaud. Comme chaque semaine, le Rayon BD a été préparé avec Pascaline Bonnet. Marie-Laure Ciboulet était aujourd'hui à la réalisation et Nicolas Delmas à la technique. Restez à l'écoute de France Culture. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Aurélie Luneau pour le magazine de l'environnement de Cause à Effet.